affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Voici très exactement 500 ans, le conquistador espagnol Hernán Cortés débarquait sur les côtes du Mexique qu'il allait bientôt conquérir avec la brutalité que l'on sait. Passé à peu près inaperçu en Europe, où l'on préfère désormais ne pas trop se souvenir des épopées coloniales, cet anniversaire a en revanche été célébré à sa manière par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, en envoyant au roi d'Espagne une lettre exigeant des excuses pour les crimes commis au cours de cette conquête. On ne saurait mieux illustrer qu'aujourd'hui comme hier, l'histoire, la façon dont on l'interprète et dont on la fabrique, se trouve au croisement d'enjeux politiques, mémoriels, identitaires et symboliques. On aurait toutefois tort de prendre de haut la façon dont le président mexicain réinterprète le roman national de son pays. En effet, comme nous allons le voir avec notre invité, depuis qu'elle a commencé, la conquête espagnole des Amériques représente un laboratoire, justement, de la façon dont s'écrit l'histoire. Pour examiner ces questions ardues, nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Serge Grusinski. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Je précise que vous enseignez à l'École des hautes études en sciences sociales, mais aussi aux États-Unis et au Brésil. Vous êtes notamment spécialiste de la mondialisation ibérique, à laquelle vous avez consacré de nombreux ouvrages. Et cette œuvre a été récemment distinguée par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui vous a donc décerné le prix Paul Duménil pour l'ensemble de l'œuvre, mais plus spécifiquement pour un ouvrage titré « La machine à remonter le temps, quand l'Europe s'est mise à écrire l'histoire du monde », ce qui nous plonge dans le sujet du jour. C'est paru en 2017 chez Fayard. Et puisqu'il est question de remonter le temps, je vous propose que nous le remontions d'abord d'un demi-siècle simplement pour évoquer le début de votre carrière et de votre vocation d'historien et plus spécifiquement votre appétence pour les sociétés amérindiennes et leur histoire. Comment tout cela s'est-il noué ?
À l'origine, rien ne me prédisposait puisque j'ai quitté Tourcoing en 67 pour préparer le concours de l'école des chartes, lycée Henri IV. En 68 et en 69, et je me destinais à la carrière des bibliothèques ou des archives, comme tout élève de cette prestigieuse école. Et puis à Paris, j'ai vécu mes 68. C'était au moment où l'Amérique latine était extrêmement fascinante. C'était le monde de Fidel Castro, c'était le monde des guérillas, et aussi, plus tragique, des dictatures militaires. Et j'allais beaucoup au cinéma. Et j'étais fasciné par ce qu'on appelle le ciné novo, c'est-à-dire le cinéma produit au Brésil dans les années 60-70, et en particulier par les films d'un Brésilien qui est mort aujourd'hui, Glauber Rocha. Et donc, en voyant ces films, j'ai pensé, pourquoi ne pas passer des vacances ou passer quelques semaines de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas encore de charter. Et la seule partie du monde latino-américain que j'ai pu atteindre, c'était le Mexique, après un voyage assez compliqué, au moins de 5 jours aller, 5 jours retour, ce qui est important parce que j'avais vraiment l'impression d'aller loin. Puis là, j'ai été saisi par un pays où il y avait une nature extraordinaire, où il y avait un passé colonial comparable à un passé européen depuis la Renaissance, et il y avait aussi la proximité des États-Unis. J'ai l'impression d'avoir tout en même temps entre les mains. J'ai donc à ce moment-là décidé de faire ce qu'on appelait à l'époque un doctorat d'État, c'est-à-dire une recherche qui dure au moins presque 15 ans, en devenant un spécialiste du Brésil, mais du Mexique plutôt, et pas encore du Brésil, mais surtout dans l'idée de m'enraciner sur place et d'avoir une raison d'être sur place. Et puis, en étant sur place et en passant beaucoup de temps dans les archives, j'ai petit à petit accumulé un petit savoir sur les sociétés mexicaines, en particulier après Cortés, hein, les sociétés coloniales, ce sont les sociétés qui couvrent le 16e, 17e, 18e siècle jusqu'au début du 19e où on a les mouvements d'indépendance qui transforment ces colonies en nations, souvent bien avant qu'existent les nations européennes dans cette Europe du XIXe siècle.
Alors vous l'avez dit, un doctorat d'État, c'est 15 ans. Vous avez passé 50 ans à étudier ces sociétés. Il y a donc forcément quelque chose qui est venu s'ajouter à cet élan initial.
En plus, je pense que c'est la compréhension progressive du fait que ce que j'étais en train d'étudier dans le passé était en partie en train de devenir la réalité de mon pays. Je vous l'explique, je revenais tous les 2 ans du Mexique. J'avais droit à un voyage tous les 2 ans et mes parents habitent Tourcoing, donc avion jusqu'à Orly à l'époque, puis Roissy, puis ensuite le train, et puis de Lille à Roubaix-Tourcoing, à nouveau un autre train. Et je me rendais compte qu'entre Lille et Roubaix-Tourcoing, je ne comprenais pas ce que les gens disaient. Parce qu'il y avait une nouvelle population, ces nouveaux Français d'origine maghrébine. Et que le quartier que j'avais connu, la petite ville que j'avais connue, était maintenant une ville où je pouvais aussi bien observer les phénomènes de métissage que dans le Mexique colonial. Et ça, pour moi, ça a été extrêmement important. L'idée que, finalement, c'était pas si loin. Et que, dans ce cas-là, l'histoire se déroulait absolument différemment. C'est-à-dire, elle n'avait pas commencé en Europe pour s'exporter ailleurs. Elle avait commencé au XVIe siècle au Mexique, où se rencontrent des Indiens, des Espagnols, des Noirs, des Portugais au Brésil, etc. Et avec toutes les difficultés que suppose ce vivre ensemble. Et là, je voyais petit à petit l'endroit où j'étais né se transformer. Je suis d'origine protestante. J'allais dans un quartier de Roubaix où il y avait le temple où j'ai fait mon école du dimanche. Aujourd'hui, dans ce quartier, il y a 6 mosquées, dont 3 payées par l'Arabie saoudite. C'est-à-dire qu'il y a une transformation absolue. Et ça m'a beaucoup intéressé en me disant que... Il y a beaucoup de spécialistes du Mexique, que je ne vais pas expliquer aux Mexicains leur histoire, mais au moins je pouvais, en réfléchissant sur cette société qui s'est construite pendant 3 siècles, essayer de comprendre le monde dans lequel j'étais né et le pays dans lequel je continue à travailler et à évoluer. C'est ce va-et-vient qui pour moi a toujours été important entre passé et présent et entre l'Europe et l'autre côté du monde, dans ce cas-là le Mexique.
Donc ce que vous voulez nous dire, c'est que l'Amérique latine était un contrepoint fructueux pour comprendre votre propre terroir.
Une espèce de retour à l'envoyeur, si vous voulez. Exactement.
Alors précisément, pour Hernán Cortés et surtout pour ceux qui l'ont suivi et accompagné, notamment les moines qui ensuite ont été envoyés sur cette terre, c'est également une altérité totale qu'ils découvrent. Pouvez-vous nous rappeler ça? Parce que tout nous semble aujourd'hui tout à fait naturel. Vous le précisez dans l'ouvrage. Du fait de cette européanisation de l'histoire, l'altérité s'est quand même un petit peu amoindrie. Mais lorsqu'ils débarquent, que découvrent-ils?
Ils ont face à eux des sociétés qui ont évolué depuis des millénaires sans aucun contact avec le reste du monde. C'est pas du tout l'expérience qu'ont les Portugais qui débarquent en Chine ou en Inde, où après tout, il y a toujours eu, d'une manière sporadique ou non, la route de la soie, des contacts. Alors c'est la première chose. Maintenant, je pense qu'on a tendance à exagérer l'altérité. Quand Cortés se promène avant la conquête sur ce qu'on appelle l'altiplano, les hautes terres mexicaines, il voit partout des mosquées, ce que nous appelons aujourd'hui des pyramides. C'est-à-dire que pour eux, les autres, ce sont les musulmans, puisqu'il y a eu des musulmans en Espagne, puisqu'en 1492, la ville de Grenade est prise par les rois catholiques, donc c'est la fin des royaumes musulmans. Donc, en fait, au lieu de sentir un monde absolument différent, au départ, ils ont l'impression que c'est un monde qui est différent, mais qui est déjà familier. C'est en approfondissant les choses qu'on se rend compte de l'abîme, de l'altérité. De la même façon... quand ces conquistadors se trouvent devant Mexico-Tenochtitlan, ils sont en hauteur, sur un col extrêmement haut perché, ils voient quelque chose qui ressemble à Venise. Et pour eux, c'est Venise. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il y a à la fois le sentiment d'une différence et en même temps, obligatoirement, la nécessité d'une proximité. Face à des choses absolument différentes, on est complètement perdu, complètement désemparé. Il faut avoir l'impression qu'il y a des ponts, même si ces ponts sont faux. Et aujourd'hui, nous parlons de pyramides, alors que ce ne sont pas des pyramides au sens égyptien du terme. Je veux dire, on a à la fois besoin de marquer la différence et en même temps de rétrécir cette différence.
Toutefois, il parle de mosquées pour parler des pyramides fort bien. On a toutefois l'impression, en en se plongeant dans votre ouvrage, que l'islam nous est extrêmement proche, c'est-à-dire qu'on reste dans un schéma qui est celui des religions du livre, dans le bassin méditerranéen, les contacts ont été fréquents, et puis même probablement d'une conception de l'histoire. Le point le plus frappant, et en matière historique évidemment ça a toute son importance, c'est la conception du déroulement du temps qui est totalement différente, alors que je pense que nous la partageons certainement avec les sociétés islamiques.
Oui, je dirais même que l'idée même de temps est une idée qui vient du monde méditerranéen, qui vient du Moyen-Âge, et que même si aujourd'hui on regarde du côté de la Chine ancienne, cette idée de temps n'existe pas. Il faut bien comprendre que généralement, quand on parle, on envisage la conquête du Nouveau Monde ou la colonisation, les conquistadors, on reste souvent sur une espèce de surface des choses, c'est-à-dire une domination religieuse, politique, économique. On se rend moins compte qu'il y a des choses extrêmement profondes qui changent. Et ça, en grande partie parce que les conquistadors eux-mêmes ne se rendaient pas compte de la différence. Par exemple, vous parlez du temps, l'idée de temps, les Indiens n'ont pas cette idée. Ils ont quelque chose qui se situe, qui est un mélange d'espace et de temps, qui est très difficile pour nous à comprendre et à saisir. Mais l'arrivée de l'écriture alphabétique, l'imposition de l'écriture alphabétique, est une révolution encore plus forte que la révolution digitale aujourd'hui. C'est-à-dire l'idée que vous pouvez utiliser un système de signes pour représenter une réalité, un pouvoir, un empereur qui se trouve à des milliers de kilomètres, c'est une révolution absolue. Et ça, c'est une forme de colonisation, parce que ça suppose que le rapport avec la réalité de ces populations indigènes va être absolument bouleversé. On a rappelé tout à l'heure, le Mexique devient une nation indépendante au XIXe siècle, ce n'est plus une colonie depuis très longtemps, mais toute cette partie du monde et une grande partie du monde vit avec cet outil qu'est l'écriture alphabétique et qui suppose un codage du réel tout à fait particulier et qui est lié évidemment à notre expansion, pas simplement l'expansion ibérique, espagnole, portugaise, mais ensuite à la colonisation hollandaise, anglaise et à cette occidentalisation du monde.
Oui, et l'idée même d'État-nation, d'ailleurs, on dit désormais ils sont une nation indépendante, mais enfin l'idée même que pour retrouver une forme d'indépendance ils choisissent l'État-nation, ça prouve que l'imprégnation est profonde.
Exactement, bien sûr.
Puisque le centre de notre conversation, c'est ce rapport à l'histoire, quels sont les autres points qui créent une appréhension totalement différente de cette notion d'histoire entre les deux peuples qui sont amenés à se rencontrer?
Il ne faut jamais oublier qu'on est dans un rapport colonial. C'est-à-dire on est dans une situation de conquête, de domination, d'imposition. Et que contrôler la mémoire des indigènes, la mémoire des vaincus, est un élément fondamental pour n'importe quel système de civilisation. Je veux dire, même pour la France républicaine de la Troisième République ou du XIXe siècle. Et donc, cette dimension de la colonisation, elle consiste en quoi? Elle consiste à mettre dans la tête des gens qu'ils ont un passé, un présent, un futur. Ce passé, on est au XVIe siècle, c'est le monde de l'idolâtrie, le monde préhispanique, le monde d'avant. Et ce monde est en partie rejeté, en partie conservé. Le présent, c'est un présent colonial. Et ça, c'est une chose très différente avec notre monde d'aujourd'hui. La mondialisation d'aujourd'hui, il y a un futur. Et le futur est fondamental. Pourquoi ? Parce que ce sont des chrétiens qui arrivent et qu'on est persuadé qu'avec la christianisation du reste du monde, c'est-à-dire de cette partie absolument inconnue que constituait le continent américain, eh bien on arrive à la fin des temps. Si vous voulez, c'est une espèce de paquet qui est offert, qui est imposé en disant ben, on va vous expliquer, vous avez un passé, ça c'est fini, c'est révolu, vous avez un présent colonial, bon, on est en train de faire une société coloniale, vous entrez dedans, et c'est un monde qui n'est pas mexicain, c'est un monde international, puisque le roi est à Madrid, puisque l'Empire est sur les quatre parties du monde. Et puis, on vous offre aussi façon de parler, bien sûr, un futur, c'est-à-dire vous entrez dans ce qu'on appelait à l'époque, en latin, l'historia salutis, l'histoire du salut, c'est-à-dire on vous offre un ticket, un billet pour la rédemption. Et ça, c'est important pour comprendre, offrir un futur aux gens, on le sait aujourd'hui, dans une situation absolument différente, et justement le futur pose problème, ça a été un élément très fort de cette colonisation et du succès de cette colonisation, le fait de donner un sens, et un sens nouveau, à la vie de ces populations coloniales et colonisées.
Alors, ce qui est intéressant, quand je vous entends parler, j'ai l'impression de voir reproduite l'histoire européenne, mais comme transplantée dans ces nouvelles sociétés. C'est-à-dire qu'on parle d'antiquité, et puis de conversion, et enfin de salut. Est-ce qu'il n'y a pas une réutilisation des outils de propagande ou d'apostolat déjà utilisés en Europe même?
Bien sûr. Là, on a quelque chose qui est un héritage de l'Antiquité, qui est un héritage du Moyen-Âge, qui est une idéologie chrétienne. Et c'est le christianisme qui donne la dimension universelle, qui permet la mondialisation. Mais la nouveauté, c'est qu'on l'applique à l'échelle d'un continent, hors d'Europe, avec des populations qui n'ont jamais eu aucun rapport avec l'Europe. Et donc ça, c'est une première rupture, et c'est d'autant plus important que le phénomène va se répéter ensuite avec l'Afrique, avec l'Asie. Ça peut paraître paradoxal, mais le fait de faire entrer ces populations mexicaines ou péruviennes dans une conception du monde européenne, dans une conception du temps chrétienne, on va retrouver ça au XIXe siècle, et au XXe siècle, surtout, avec le marxisme, la Chine, par exemple. Quand la Chine devient marxiste, la Chine de Mao Tse-tung est aussi dans ce monde occidentalisé.
Messianique et extraordinaire.
Exactement. Je veux dire, ça veut dire que l'épisode mexicain est important ou américain parce que c'est le premier acte d'une histoire qui s'est achevée à peu près actuellement sous ma génération, c'est-à-dire cette occidentalisation du monde qui fait que tout le monde a le même calendrier et que tout le monde, chinois, japonais, indien, a la même conception de l'histoire. Je veux dire, c'est ça qui est intéressant et qui est à la fois le triomphe de l'Europe et qui est en même temps l'élimination d'autres formes de traditions historiographiques, la grande tradition chinoise, la tradition japonaise, qui ont laissé la place à notre façon à nous de faire l'histoire. Et c'est une partie de ce passé, moi, qui m'intéresse beaucoup parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en évoquant anecdotiquement mes retours à Roubaix-Tourcoing, ce qui m'intéresse dans cette histoire américaine, c'est de comprendre ce que c'est que l'Europe et comment elle se met en place. Et quels sont ses effets hors d'Europe, justement. C'est une façon d'essayer de comprendre ce que, qui semble intéresser très peu de gens aujourd'hui, ce qu'est l'Europe. Et ce que pourrait être l'Europe, en tout cas ce qu'elle a été à partir du XVIe siècle où elle se met en place.
Oui, parce qu'il faut peut-être préciser, repréciser pour nos auditeurs ce qu'il se passe en Europe au même moment, autant du point de vue politique, parce que vous dites que pour la conception de l'histoire, il y a trois chocs au XVIe. D'une part, les guerres de religion. D'autre part, une révolution plus intellectuelle de la façon de faire de l'histoire qui est en Italie. Et puis enfin, cette découverte d'un autre monde que l'on ignorait. Est-ce que vous pouvez redresser la part de chacun des événements dans cette mutation ?
On pourrait dire qu'il y a trois révolutions. Il y a d'abord la crise de la réforme. Une partie de l'Europe devient protestante. Ce qui remet en cause toute l'histoire de l'Église et qui oblige à refaire l'histoire de l'Église pour montrer que le protestantisme était la culmination obligée de cette histoire et que l'Église catholique a passé son temps à décliner depuis le Moyen-Âge et surtout au XVIe siècle.
Donc là, oui, donc une sorte de révisionnisme.
Il y a deux histoires. Histoire catholique. Il n'y a plus une histoire chrétienne uniquement. Elle est fracturée. Il y en a deux. Et elles s'opposent l'une l'autre. Ensuite, il y a une réflexion sur qu'est lié à l'apparition des Premières Nations, c'est-à-dire l'histoire, c'est l'histoire de la nation, c'est l'histoire de la patrie. Un historien, c'est quelqu'un qui se met au service de sa patrie. Ça, c'est l'histoire italienne. C'est le monde de Florence, c'est le monde de Venise. Et c'est l'ancêtre pour nous de l'histoire moderne. C'est une histoire qui n'est plus religieuse du tout, qui est beaucoup plus séculière et qui s'intéresse à l'histoire politique, à l'histoire militaire.
L'ancêtre de l'histoire moderne, c'est-à-dire que Bodin, par exemple, puise à cette source.
Exactement. Et puis même, je veux dire, l'histoire nationale. Je veux dire, sauf que l'échelle était Florence, l'échelle était Milan ou Venise. Et là, l'échelle va être ensuite la nation, va être la France, la Hollande, l'Angleterre.
Donc là, c'est une sécularisation, ça devient une histoire politique, diplomatique, militaire.
Tout à fait. Et c'est encore aujourd'hui un genre historique extrêmement important dans tous les pays, sur toute la planète. Et puis, il y a le fait de se trouver face à des gens en Amérique, mais aussi en Afrique et en Asie, qui ont d'autres passés, d'autres mémoires, d'autres rapports à la réalité, d'autres rapports au temps ou pas de notion du temps du tout. Et donc, tout cela se passe au XVIe siècle, avec mise en place ce qui marquera l'autre révolution, la révolution des Lumières, mais je dirais au XVIe siècle avec une ouverture sur le monde beaucoup plus grande qu'au XVIIIe, au XIXe siècle. Ça aussi, c'est assez surprenant à dire. Il y a le sentiment, à cause du christianisme et de l'universalité, que tous les systèmes politiques se valent. Alors, il y en a qui sont chrétiens, pas chrétiens, évidemment, ça c'est important, mais il n'y a pas encore, au XVIe siècle, cette idée qui est encore très forte aujourd'hui d'eurocentrisme, ou de francocentrisme,
ou d'hispanocentrisme. Intrinsèque, vous voulez dire.
Exactement. Par exemple, vous lisez les textes au XVIe siècle des découvreurs de la Chine, tout le monde s'accorde pour considérer que la Chine est le pays le plus puissant, le plus développé politiquement, le plus sophistiqué du monde. Je veux dire, il n'y a pas l'idée que c'est l'Europe avant tout, parce que l'Europe, elle n'existe pas encore. Cette idée, elle va apparaître au XVIIIe et au XIXe siècle. Et c'est justement cette perméabilité, cette porosité qui fait qu'il y a beaucoup de mélanges, il y a beaucoup de circulations, beaucoup de choses sont possibles au XVIe siècle qui ne vont plus l'être à partir du XVIIIe et plus du tout à partir du XIXe.
On sent très fort cet aspect-là lorsqu'on se plonge dans l'œuvre de ces moines qui arrivent au Mexique, où l'on ressent à travers votre restitution des sentiments très ambivalents. Et même des jeux politiques beaucoup plus complexes que ceux qu'on pouvait imaginer, une sorte de légende noire de la conquête.
Alors nous, on est toujours prisonniers de cette légende noire, parce que la légende noire, c'est une légende anti-espagnole, et qu'il y a chez nous, Européens du Nord, pas simplement nous, mais les Hollandais, les Allemands, etc., une vision extrêmement négative de nos voisins.
Et que Charles Quint n'était pas notre ami.
C'est vrai aussi. Mais cette légende noire, elle nous empêche de comprendre, et il ne s'agit pas de la remplacer par une légende rose, mais on a tort de parler des Indiens. Les Indiens, c'est comme les Français. Dans un sens, ça n'existe pas. Je veux dire, ce sont des sociétés avec des classes sociales. Et on a, dès le XVIe siècle, quelque chose qui est fondamental pour comprendre l'histoire de l'Amérique latine jusqu'à aujourd'hui. Il y a des élites indigènes. Et il y a des classes moyennes et il y a des pauvres. Alors, les gens qui meurent, les gens qui sont exploités, ce ne sont pas ces élites. Et ces élites choisissent très vite au Mexique, et mais aussi au Pérou, la carte de la collaboration avec la puissance du moment. Pendant 3 siècles, ça a été l'Espagne. Au XIXe siècle, ça a été nous, la France ou l'Angleterre. Au XXe siècle, ça a été les Américains. Et aujourd'hui, j'enseigne en Amazonie et je peux voir ça de près, c'est la Chine. Et donc, il y a là quelque chose qui rend plus complexe cette approche. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a eu des destructions de population, des destructions de culture. Et pas oublier que ça aurait été impossible sans cette connivence, sans cette intervention de ces élites qui, systématiquement, ont choisi... Le mot est beaucoup trop chargé, c'est la collaboration. Mais nous, on ne peut pas dire collaboration parce que ça ne va pas jusqu'à ce point-là. Mais cet élément de l'histoire, cette force historique, est fondamentale pour comprendre pourquoi une minorité d'Européens a réussi à mettre la main sur un continent entier. Et ces élites, évidemment, ont réussi non seulement à se maintenir en place, mais elles ont profité de ce rôle d'intermédiaire entre des populations indigènes qui ne comprenaient pas très bien ce qui se passait et elles-mêmes qui maniaient l'espagnol, le latin, qui écrivaient, qui voyageaient à Madrid pour régler leurs affaires. Et aujourd'hui, évidemment, on retrouve cette situation. Les élites latino-américaines continuent à diriger cette partie du continent malheureusement en s'offrant à la puissance du temps et, comme je le disais aujourd'hui, en s'offrant peut-être beaucoup plus à la Chine qu'aux États-Unis, puisque c'est la Chine qui est intéressée par cette partie du monde.
Elle peut faire contrepoids peut-être aussi. Quand on a un voisin puissant, ça peut être intéressant d'aller chercher un allié plus lointain, non ?
Je sais pas. Je pense que c'est pas simplement ça, parce qu'il y a eu entre ces élites, je veux dire, pensons aux libéraux du Chili, beaucoup de pays, une collaboration très forte avec les États-Unis pour des raisons idéologiques. C'est beaucoup plus lié au déclin des États-Unis, au déclin de la présence américaine, qui fait qu'il y a des vides et que surgissent exactement une autre puissance et qui apparemment ne vient pas avec des intentions impérialistes. Je veux dire, les États-Unis, l'impérialisme, ça a toujours été vu comme un couple inséparable. Or, la politique chinoise est beaucoup plus habile.
Oui, ils ne vont pas les convertir en confucianisme.
Exactement. Et on ne vient que pour faire des affaires, apparemment.
Très bien. Alors précisément, lorsque ces moines débarquent, on a le sentiment aussi que à la fois, ils sont évidemment les agents destructeurs d'une société ancienne, mais que simultanément, et de façon un peu paradoxale, ils se font aussi les réceptacles de ce qui leur reste et font œuvre de transmission. Est-ce qu'on peut faire la balance de tout cela ? Comment ça s'articule pour donner quelque chose qui ressemble finalement, à la fin, plutôt à quelque chose de l'ordre d'une fusion, non ?
Moi, je dirais qu'il ressemble à une réparation, parce que la conquête, elle casse les sociétés indigènes. Et les gens qui arrivent, ces Espagnols, sont des gens déracinés aussi. Hein, imaginez, vous êtes conquistador, vous avez votre femme, votre gosse à Valencia, à Valence ou à Barcelone, veut dire, vous n'allez peut-être plus jamais les revoir, ou bien les revoir dans 5 ou 6 ans. Donc, ce sont des sociétés extrêmement chaotiques. Elles ont besoin d'être recollées. Et donc, en grande partie, ce qui va se passer, c'est la réparation de ces sociétés pour construire une société coloniale. Ensuite, il y a une question qui se pose, c'est-à-dire, et qu'on pose beaucoup aujourd'hui, c'est l'intégration. Bon. Pour les moines, pour ces franciscains, pour ces dominicains, les Indiens idolâtres, des créatures démoniaques et insupportables. Mais une fois que les gens sont convertis, ce qui compte, c'est d'être chrétien. Ce n'est pas d'être européen. Et l'idée d'être blanc ou européen n'a strictement aucun sens.
Les Européens aussi sont des convertis, en somme.
Exactement.
Ils s'en souviennent.
Exactement. Donc, il y a ou des chrétiens ou des non-chrétiens. Quand vous êtes chrétien, vous faites partie, dans cette première moitié du XVIe siècle, de l'Empire de Charles Quint. Et vous êtes en principe, je dis bien en principe, théoriquement, l'égal d'un Espagnol. Donc il y a une machine à intégrer qui passe par le christianisme, qui pose la condition terrible de la conversion. Mais une fois que vous êtes converti, vous êtes intégré dans le système. Alors que le monde anglo-saxon, qui va ensuite s'abattre sur l'Amérique, ne va jamais chercher à récupérer les Indiens. C'est-à-dire qu'il va les exclure. Les Hollandais vont considérer très vite à New York qu'on ne convertit pas les Indiens au protestantisme. Ça ne vaut pas la peine, ce sont des barbares. Là, il y a une volonté de contrôle des individus, des imaginaires, à travers le christianisme, ce qui est très forte et qui a permis la construction de l'Amérique latine.
Qui passe d'ailleurs par d'autres mythes parfois un peu curieux, enfin, qui nous semblent naïfs, mais qui, semble-t-il, sont mobilisés. Ou alors, sont-ils mobilisés à dessein et dans ce cas-là, envers qui vous nous rappelez que certains de ces moines souhaitent voir dans ces Amérindiens des tribus perdues d'Israël, ou alors des Carthaginois. Ils y croient, c'est pour les rendre acceptables, les réintégrer dans l'humanité. Quel est le processus qui mène à ces constructions ?
Et le problème, c'est qu'on se trouve devant des populations gigantesques dont on ne parle pas dans la Bible. Alors, la Bible, si elle ne parle pas de ça, c'est extrêmement ennuyeux. Mais les anciens, Aristote, Platon, Cicéron, n'ont jamais parlé non plus de l'Amérique. Donc, il y a là une espèce de trou dans ce bagage, et le bagage de l'Antiquité, le bagage de la Bible, c'est fondamental pour les Européens. Donc il faut trouver une solution. Il faut à tout prix rattacher ces populations à une histoire, éventuellement des Juifs, ou des histoires romaines ou carthaginoises. Il y a aussi là-dedans, et ça c'est intéressant, je veux dire, on est face au début d'une mondialisation et d'une conscience monde. C'est-à-dire, il faut penser le globe dans sa totalité. Et pour penser ces populations, il faut chasser l'idée qu'il y aurait plusieurs mondes. Il faut penser qu'il y a quelque chose à l'origine qui était commun. Ça, c'est extrêmement fort et ça vient du christianisme. Justement, c'est pour ça que ce sont des moines qui se posent la question. Cette idée qu'il y a une seule humanité. Pour nous, aujourd'hui, c'est une notion qui est une notion laïque, séculière. Ce n'est pas du tout une notion séculière ou laïque. Ça vient évidemment du christianisme ou de l'islam. L'islam a absolument la même conception, ce qui n'est pas le cas des Chinois, par exemple, à l'époque. Donc cette humanité, il faut démontrer qu'il y a une seule humanité. Donc ces théories sur les origines vont occuper les Espagnols et les Portugais pendant au moins un bon siècle, dire, avec des choses extrêmement loufoques. L'Atlantide, par exemple, qui se serait effondrée dans l'océan Atlantique, les populations se seraient réfugiées sur le continent américain.
Alors ça, c'est plaisant, mais de façon plus profonde, mais certainement, cela tient-il du même élan, il y a cet acharnement à vouloir démontrer qu'au départ de ces civilisations, il y avait non pas le polythéisme, mais le monothéisme, qui aurait transitoirement dégénéré en polythéisme, pour ensuite retrouver la bonne voie avec, j'imagine, l'arrivée des Espagnols, c'est bien ça ?
Exactement.
Et alors là, c'est farfelu ou c'est un taux de crédibilité que lorsqu'on se penche sur des textes grecs anciens, où on voit effectivement un déclin du polythéisme ?
Ça dépend. Si vous-même, vous êtes chrétien, la Bible, l'origine, c'est le monothéisme, je veux dire. Ensuite, il y a l'histoire de Noé, il y a le déluge, l'apparition de l'idolâtrie, mais l'idolâtrie et le polythéisme viennent après. Hein. Je veux dire, dans une vision classique, on dirait au Brésil créationniste, je veux dire, on a ça. Il faut bien se dire, et peut-être en retenir ça, c'est la volonté de donner un sens à l'histoire. Il faut à tout prix donner un sens et donner un sens à l'histoire de l'intégration de ces populations aussi. C'est-à-dire que, et je pense qu'on peut être très sensible à ça aujourd'hui dans le contexte actuel, là, ce sont des sociétés qui construisent du sens, qui l'imposent de toutes les façons et qui l'imposent aussi aux nouvelles populations en leur disant « Oui, vous n'étiez pas chrétien, maintenant vous êtes chrétien parce que vous faites partie de cette histoire du salut et qu'on avait besoin que vous deveniez chrétien pour arriver à la fin du monde. » Donc, ce sens qui est évidemment une idéologie et qui est basée sur des mythes est extrêmement fort. Et ça fait tenir, je veux dire, cette expansion ibérique. Ça explique aussi pourquoi le pape aujourd'hui est argentin, pourquoi le catholicisme aujourd'hui c'est l'Amérique latine, ce n'est plus la France, ni l'Italie, ni l'Espagne. Il y a quelque chose qui a été construit et qui est encore vivant dans certaines régions, dans ces régions du globe, cette histoire qui fait sens, c'est-à-dire qu'il y a un futur, qu'il y a un but.
Peut-être faut-il rappeler aussi que probablement ces gens y croyaient, ce n'est pas simplement de l'instrumentalisation.
Je pense que non seulement ils y croyaient, c'est toujours difficile de savoir si les gens croient ou ne croient pas, mais ils ne peuvent pas penser le monde autrement.
C'était leurs outils, c'est ça que vous dites.
Exactement, c'est-à-dire que ça fait partie de leurs outils intellectuels. On peut... Il n'y a pratiquement pas d'athées dans ces sociétés, mais on ne peut pas ne pas penser le monde de cette façon-là. Alors, on sera protestant, on sera catholique, on sera musulman, on sera juif, mais même l'adversaire a les mêmes outils, le luthérien ou le calviniste, ou bien le juif qu'on va essayer de coincer et peut-être d'envoyer au bûcher, pense de la même façon. Et donc, ce consensus, évidemment, renforce ces populations dans l'idée de partager quelque chose en commun et qui ne peut être que la vérité.
Oui, une appréhension en commun, même des enjeux, même des conflits.
Exactement.
Alors que lorsqu'on se retrouve face aux Amérindiens, il n'y a même plus d'appréhension en commun. Il y a un mot qui revient souvent, notamment au début du livre, c'est l'innommé. C'est-à-dire qu'il faut peut-être faire un effort mental pour se mettre à leur place. Ils sont face à quelque chose qui est... innommé.
C'est-à-dire, il leur arrive sur les bras des choses dont ils ne connaissent pas l'origine, dont ils ne connaissent pas l'histoire, qui sont complètement imprévues, imprévisibles, des gens qui ont des réactions qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Nous, on connaît, je veux dire, pour nous, c'est Cortés, les Espagnols, Charles Quint, Pizarre. On a l'histoire de l'Europe qui se transporte, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, de l'autre côté du continent. Eux, ils voient arriver des gens. Impossible de penser que derrière, il y a Charles Quint, derrière, il y a Rome, il y a l'Église, derrière, il y a l'Antiquité. Et c'est cette caractère invisible qu'on retrouve aujourd'hui dans la mondialisation. Je veux dire. Les gens sont partie prenante ou victime de quelque chose qui est tout de même... Un algorithme, c'est absolument invisible. Un algorithme, c'est la mondialisation, je veux dire. L'algorithme qui décide des nouvelles qu'il va vous envoyer, pas vous envoyer, c'est quelque chose, vous seriez, et moi ou vous, incapables de savoir où est cet algorithme, qui est-ce qui l'a mis en place, etc. C'est ça l'innommé.
Quelques petites idées quand même.
Quelques petites idées, mais si vous demandez à la majorité des populations, je veux dire, c'est un flou absolu, c'est une espèce de point d'interrogation. Il n'y a même pas la prise de conscience de cette invisibilité. Et de cette force, de cette chose invisible.
Alors, il faudra de nouveaux outils.
Il faut surtout le sens critique. Je veux dire, des outils, les outils sont... On n'a pas beaucoup changé d'outils. Hein. Je veux dire, quand vous prenez les outils chrétiens, ont disparu en partie. Je veux dire, le christianisme était fondé sur l'aristotélisme, sur une conception de la logique qui est toujours la nôtre. Je veux dire. Donc, on ne change pas d'outils facilement. Et je vois mal comment nous, occidentaux, européens, on pourrait changer à court terme.
Alors, retrouver les outils, alors.
Je pense... Retrouver des outils, en fait, il faudrait plutôt en créer de nouveaux face à des moyens de transmission. Et surtout, ce n'est pas tant la révolution technique, simplement le fait que...
Non, je pensais à des outils oui, conceptuels. Hein.
Mais il faudrait que ces outils soient capables de traiter des informations venant à n'importe quel moment de n'importe quelle partie du globe. Et c'est ça qui est difficile. Autrefois, même au XVIe siècle, je veux dire, il était beaucoup plus facile de faire le tour de ce qui pouvait arriver et de le traiter. Aujourd'hui, que savons-nous de ce qui se passe exactement aujourd'hui à Bagdad? Que savons-nous de ce qui se passe dans telle université de Hong Kong? C'est par rapport à ça qu'il faudra avoir des outils capables de connaître à la fois la situation à Hong Kong, chez Erdogan... à Paris pour la grève du 5, etc. C'est ça qui pose un défi gigantesque. Et je ne suis pas sûr que nous ayons actuellement, en tout cas, les moyens de traiter cette information multiple qui suppose des connaissances, la connaissance de diversité culturelle, religieuse gigantesque.
Oui, c'est-à-dire que si le monde est devenu un, effectivement, il devient plus plus compliqué, pas tout à fait à la portée de l'honnête homme, d'avoir les connaissances suffisantes pour faire des choix avisés. C'est ça que vous voulez dire ?
Oui, je veux dire que ce n'est pas une question qui soit ou non à la portée, c'est quand on est face à ça, on est confronté constamment, je veux dire. Ce n'est pas nous qui pouvons décider de nous enfermer, je veux dire. C'est beaucoup ce flux d'informations, et moi je me sens extrêmement démuni, parce que savoir exactement ce qui se passe en Chine aujourd'hui et la position de la Chine face à Hong Kong, et c'est fondamental, mais c'est aussi fondamental de savoir pourquoi en Irak il y a des gens qui font des manifestations, comme c'est fondamental de savoir ce qui se passe en Amazonie aujourd'hui, je veux dire. Mais comment peut-on traiter, alors on voit ça au XVIe siècle, des gens qui se mettent petit à petit à traiter des informations qui viennent des imprimeurs, des éditeurs, des quatre parties du monde. Mais aujourd'hui, avec les instruments que nous avons, les machines, je veux dire, c'est à n'importe quel moment qu'on peut recevoir sur la tête des nouvelles de sociétés qu'on connaît mal, qu'on devrait connaître, et en même temps qu'on peut pas, une information qu'on peut pas maîtriser.
Le grand changement aussi, mais peut-être une partie de notre effroi vient-il de là, c'est que vous avez décrit dans cet ouvrage une époque où l'Europe s'est mise à écrire l'histoire du monde et où, de fait, l'histoire du monde est devenue très largement une histoire interprétée et dont le sens était donné par l'Europe. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. On parle de monde multipolaire, on parle de déplacement du centre de gravité de la planète vers le Pacifique. On sent que les puissances d'antan ne sont plus celles qui se lèvent, et que ce basculement n'est pas seulement économique. Il a aussi une autre nature, de nouveaux modèles qui se présentent, qui s'offrent comme des alternatives, allez, pour faire simple, à la démocratie à l'occidentale. Est-ce qu'une partie de l'effroi ne vient-il pas de là ?
Je suis... moi, j'ai l'intuition... C'est toujours difficile pour un historien de passer parler à la fois du présent et du futur. Mais il y a des choses qu'on peut tout de même observer. D'abord, et ça, c'est tout à fait concret, je veux dire, l'incapacité de l'Europe à se construire. Je veux dire, moi, j'ai 70 ans maintenant. Moi, je fais partie de... Je suis né en 49. Je pensais que, petit à petit... L'Europe, une mentalité européenne, une culture européenne, tout ça se construirait. Or, c'est tout le contraire. Et c'est non seulement tout le contraire, mais non seulement... moi, je suis frontalier avec la Belgique, je veux dire. La Belgique faisait partie de la France et la France de la Belgique. Quand j'étais adolescent, il n'y avait pas vraiment de frontière entre les deux pays. Aujourd'hui, vous passez la frontière, les gens parlent flamand, on ne parle plus un mot de français. Et j'étais à la médiathèque de Tourcoing samedi dernier, et les gens de la médiathèque me disaient que la politique de Tourcoing, c'est de s'intéresser uniquement à Tourcoing et d'ignorer Lille, Roubaix, et surtout ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Donc, il y a un phénomène de repli qui est tout à fait le contraire de ce qui aurait dû se passer. Outre cela, il y a aussi le déclin des États-Unis. Et puis, il y a, ça c'est absolument subjectif, l'impression tout de même que l'Europe a perdu sa productivité culturelle et intellectuelle. C'est-à-dire, quand vous regardez ce qui se passait même après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1919 ou dans les années 20, et que vous comparez avec la situation d'aujourd'hui, il y a un essoufflement, à mon avis. Et comparativement, il y a un élément qui est apparu sur la scène internationale, et c'est la Chine. Les meilleurs films que j'ai vus au printemps en France sont des films chinois, c'est-à-dire ceux qui parlent du monde d'aujourd'hui, de la mondialisation, d'une façon d'ailleurs critique. Il y a quelque chose qui se met en place. L'Europe a duré, l'Europe telle que nous la concevons, l'Europe moderne, elle apparaît au XVIe siècle. Elle a duré 5 siècles, c'est pas mal. Mais c'est évidemment assez douloureux de passer d'un monde dominé par l'Occident à quelque chose d'autre, dont je suis incapable de dire ce qu'il sera. Mais visiblement, on s'en rend compte en Amérique latine. L'Amérique latine a toujours été dominée par le monde européen, puis par le monde nord-américain. Justement, la pénétration chinoise est quelque chose d'assez spectaculaire. On voit que, aussi bien au niveau de la possession des infrastructures que dans une ville comme Belém, un centre commercial où on vend tout ce que vous pouvez imaginer comme matériel numérique, comme télécommande, tout ça est absolument chinois. Ça peut être de la quincaillerie chinoise, ça peut être la Chine achetant des ports en Amazonie et des chemins de fer, je veux dire. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est d'autant plus intéressant que c'est pratiquement invisible. On a beaucoup parlé cet été de la déforestation. On ne dit pas un mot là-dessus. Donc, il y a une ignorance du monde des journalistes et il y a aussi une incapacité de prendre cette nouvelle dimension. C'est compliqué de penser la Chine en Amérique latine. Déjà, c'est compliqué de penser la Chine en Afrique. Donc, cela dit, ce sont des éléments qui se mettent en place. Je ne peux pas aller plus loin.
Oui, mais là, ce sont des éléments qui sont de l'ordre de la puissance matérielle, de la nécessité de trouver des ressources. Enfin, ce sont des jeux d'influence qui portent sur des éléments qui sont très 19e siècle, si vous voulez.
Pas du tout. La force intellectuelle de la Chine,
oui,
aujourd'hui...
Oui, est-ce qu'il y a aussi, c'était la question, est-ce qu'il y a aussi un soft power et un rayonnement culturel, idéologique enfin, est-ce que la Chine s'offre comme un modèle alternatif aujourd'hui en Amérique du Sud?
Elle s'offre... Elle rentre, je pense toujours dans le cas de l'Amazonie, par exemple, à travers l'enseignement du chinois. C'est-à-dire pas seulement... Et là, j'ai des collègues de l'université qui ont voulu s'inscrire, sont curieux, ils voudraient faire du chinois. C'est pas possible. Il y a la queue pour faire du chinois à Belém do Pará, en Amazonie, je veux dire. Plus personne n'apprend le japonais. Évidemment, plus personne ne parle le français. Mais, ça, si vous voulez, c'est une prise de conscience au niveau... Alors, vous me direz, les gens qui apprennent le chinois, c'est quoi? Des petits hommes d'affaires, c'est des étudiants, c'est des professeurs d'université. Mais il y a quelque chose là,
oui,
qui se passe.
C'est la bourgeoisie d'affaires et intellectuelle. C'est quand même embarrassant.
Exactement.
C'est généralement elle qui fait l'histoire.
Exactement. Mais ça, si vous voulez, c'est tout à fait concret. Et les Chinois, à travers les instituts Confucius, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux, donner des cours à Milan, sont extrêmement habiles. Il y a aussi, et là, c'est le soft power, c'est la notion d'harmonie, de paix, on n'est pas impérialiste. Et à travers ça, il y a une autre forme de pénétration. Alors, c'est ce que nous, Européens, nous avons fait pendant 5 siècles. On est malvenus de leur jeter la pierre. Mais c'est un phénomène de plus en plus fort et passionnant pour un historien du monde contemporain.
Au cours de notre entretien, vous avez insisté plusieurs fois sur la nécessité de... Enfin, la force, une des forces qu'avaient les conquistadors et les moines qui les ont suivis, c'est de donner un sens. Et il n'y avait pas seulement de s'approprier la mémoire, le passé, ou d'être dominant dans le présent, mais d'offrir un avenir. Est-ce que c'est pas finalement ça la faillite actuelle de l'Europe? C'est qu'on a l'impression que pas grand-chose à proposer comme projet auquel nous croyons nous-mêmes, tout simplement parce qu'on ne croit plus beaucoup en nous, non?
Bah, si vous voulez, on pourrait reprendre l'idée d'un de mes collègues, François Hartog, sur le présentisme. La situation du XVIe siècle, bon, c'est très simple. On offre un passé qui est idolatrique, qui est évidemment...
Dans lequel on peut se réfugier, à rejeter, s'édouiller.
Et puis un présent colonial et un futur qui est la rédemption. Aujourd'hui, le passé n'existe plus. Un phénomène d'amnésie et d'ignorance du passé qui est assez terrifiant pour des gens comme moi. Je me souviens, à Princeton, je demandais à mes étudiants, qui sont des étudiants triés sur le volet, qu'est-ce qui se passe en 1949. Personne n'a pu évoquer la révolution chinoise, l'arrivée de Mao Zedong au pouvoir. Le futur, il est extrêmement, quasiment invisible. Et il y a ce repli sur ce qu'on appelle le présentisme, c'est-à-dire sur le présent. C'est-à-dire, c'est intéressant de voir comment ce temps de l'Europe, ce temps occidental, les cartes se sont redistribuées. Et donc, nous vivons enfermés dans ce temps parce que il y a une vision catastrophique de l'avenir.
Je veux dire. Oui, voire même apocalyptique.
Et apocalyptique, exactement. Mais une apocalypse qui n'est plus religieuse. Et puis, il y a ce phénomène de désintérêt ou de rupture avec ce qu'on appellerait le patrimoine, le fond, les classiques. Alors, je ne dis pas qu'en soi, ce soit forcément mauvais, mais c'est spectaculaire. Je veux dire, le fait qu'il y ait une certaine continuité. Moi, j'appartiens à la dernière génération où, sans que mes parents aient jamais fait de latin, j'ai fait du latin parce que quand on allait au lycée, on faisait du latin, je veux dire. Et ça m'a mis évidemment en rapport avec... non seulement des générations antérieures, mais des civilisations antérieures. Ça, c'est quelque chose qu'on a abandonné. Et il est certain que votre analyse pessimiste est quelque chose que moi, j'ai tendance à partager, mais c'est peut-être aussi dû à mon âge.
Il semblerait que non. Mais je suis sûr qu'il y a des remèdes. D'ailleurs, en creux, vous avez donné les remèdes retrouver le sens de l'histoire, de la profondeur historique, se rendre compte que certes, nous avons un passé, mais donc nous avons nécessairement un avenir. On peut se désincarcérer de ce présentisme.
Bien sûr, sauf que les espaces pour le faire sont, dans notre société, extrêmement limités, extrêmement réduits. Et les moyens de le faire aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer de se battre pour ça, mais c'est particulièrement difficile aujourd'hui.
Oui, d'autant que d'autres se battent et prennent la place. Mais dans les remèdes que vous avez donnés, beaucoup concernent l'enseignement. Peut-être peut-on conclure sur l'enseignement de l'histoire et ses enjeux aujourd'hui et lever quelques malentendus concernant cette nécessaire histoire globale pour laquelle vous avez plaidé et qu'on oppose souvent au roman national, alors que je crois que le débat ne se situe pas là. Ça vaut peut-être le coup de conclure en levant ce malentendu un peu navrant et qui nous paralyse sur de faux enjeux.
Moi, je dirais d'abord, c'est pas une question théorique. Je veux dire, j'ai eu l'occasion de travailler à Roubaix, mais aussi dans d'autres pays comme l'Espagne, face à des classes où on a des gens qui viennent, qui sont des Espagnols ou des Français de souche, et puis des gens qui viennent, je pense en Espagne, qui viennent du Maghreb et d'autres qui viennent de l'Équateur. Donc, je veux dire, il y a une espèce d'urgence. Quel type d'histoire on peut enseigner à des gens qui viennent d'horizons et qui sont porteurs de mémoires absolument différentes? Et donc là, c'est un travail de reconstruction, d'invention d'une mémoire commune, en supposant que l'histoire, justement, est un élément d'intégration. Alors, c'est la grande difficulté, et je parle ici de notre pays, comme j'ai eu l'occasion de travailler avec des inspecteurs d'académie, ce ne sont pas les programmes. Je veux dire, on ne fait plus d'histoire nationale, c'est fini. Mais il y a une ouverture des programmes qui est tout à fait admirable en France. Le problème, c'est que la plupart du temps, les professeurs n'ont pas été formés pour répondre aux questions que posent les programmes. Il y a les programmes qui, dans le secondaire, posent le problème de l'histoire connectée. Comment faire de l'histoire connectée? Ou bien d'ouvrir. Je me souviens d'une question, il s'agissait de comparer Istanbul avec Cusco. Cusco, c'est la capitale de l'Empire des Incas. Istanbul, c'est l'Empire ottoman. Les professeurs qui sont dans le second degré n'ont ni le temps, ni les moyens, surtout pas la formation pour répondre. Donc il y a là quelque chose d'assez difficile à résoudre et qui suppose énormément d'efforts, pas simplement de la part de l'administration qui pense des programmes, mais surtout de la part des enseignants qui trouvent les moyens justement de répondre à ces sollicitations de ces mondes multiples. C'est un petit peu ce que je parlais sur ce bombardement d'informations, je veux dire, devoir enseigner à des gosses qui ont 14-15 ans en quoi l'Empire ottoman et l'Empire inca se ressemblent et ne se replantent. C'est passionnant et c'est comme ça qu'on fait de l'histoire globale. Sauf que le système universitaire et le système d'enseignement de l'histoire ne préparent pas en France à cela. Je veux dire, l'histoire globale en France, pratiquement, ça n'existe pas.
Alors, que reste-t-il? Il n'y a plus d'histoire nationale, il n'y a pas encore d'histoire globale. On flotte entre les deux.
Oui, on flotte exactement entre les deux. Et on a beaucoup de difficultés à trouver des réponses. Une des réponses qu'on aurait pu apporter, ça aurait été une réponse européenne. J'étais samedi dernier à Tourcoing. Tourcoing, à l'époque de Cortés que vous avez évoqué, de 1519, c'était dans l'Empire de Charles Quint. C'était du côté des méchants, en quelque sorte, et pas des Français. Bon, c'est ça l'histoire européenne, c'est de rappeler aux gens que, ben, vous savez, à un certain moment, vous étiez dans une autre mouvance, dans un autre cercle, et que l'histoire est faite de passé accumulé qui s'empile, et c'est ça la richesse du passé. Mais ça peut être matériellement, concrètement, pédagogiquement, très difficile à mettre en œuvre.
Très bien, écoutez, nos moines franciscains et dominicains confrontés à cette altérité radicale et les élites amérindiennes nous offrent peut-être des outils pour se situer dans un monde en mutation. En tout cas, c'est une lecture qui permet au moins de prendre conscience des problèmes, de les poser et leur offrir un contrepoint fructueux. Donc ça peut être le début d'une réflexion et qui sait des solutions. On en a vu d'autres dans l'histoire et l'histoire continue, quoi qu'il arrive, non?
Merci. Oui, exactement. Merci beaucoup.
Merci à vous.
De vos questions.
Je rappelle les références de l'ouvrage « La machine à remonter le temps quand l'Europe s'est mise à écrire l'histoire du monde » par Serge Grzynski chez Fayard. Et je précise, pour ceux qui souhaiteraient poursuivre, j'ai pu dire au cours de cette émission que c'était le dernier livre de Serge Grzynski. Ce ne l'est plus car vient de paraître tout récemment également chez Fayard une évocation de son histoire familiale et de ses racines, car l'histoire n'est pas seulement nationale ou globale, elle peut être aussi familiale. C'est aussi une façon de se situer dans l'espace et le temps. Ça s'appelle « Les enfants du château Vessier ». C'est un récit donc chez Fayard par Serge Grosinski et Corinne Vandeval. Merci encore.
Merci à vous.